VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mardi 1er août 2017. En direct de Washington, Idrissa Seroulia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, affrontement entre manifestants et policiers à Goma lors des manifestations de la Lucha pour la tenue des élections avant la fin de l'année.
Washington, Londres et deux ONG internationales demandent une enquête sur le meurtre d'un haut responsable de la commission électorale du Kenya.
Au Rwanda, les candidats à la présidentielle de vendredi mettent les bouchées doubles. Paul Kagame est donné gagnant par les analystes.
En Côte d'Ivoire, deux journalistes interpellés et détenus hier à Abidjan pour divulgation de fausses informations.
Au Malawi, les autorités ont émis hier un mandat d'arrêt contre l'ancienne présidente Joyce Banda.
Ici à Washington, le directeur de la communication de la Maison-Blanche, Anthony Scaramucci, a quitté ses fonctions lundi après seulement 10 jours à son poste.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, manifestants et policiers se sont affrontés hier à Goma, dans l'est du pays, lors d'une mobilisation nationale contre le maintien du président Joseph Kabila à la tête du pays et la non-convocation des élections pour désigner son successeur. Le mouvement citoyen des jeunes de lutte pour le changement, la Lucha, avait appelé pour lundi à une marche pacifique sur toute l'étendue de la RDC pour dire non à la présidence à vie de M. Kabila et exiger les élections avant la fin de cette année. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition avec Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma.
Au Rwanda, quelques jours de l'élection présidentielle de vendredi, les candidats mettent l'accent sur l'économie. Le président sortant, Paul Kagame, est donné encore gagnant par la plupart des analystes battant campagne dans la province du Nord hier. Il a fait appel à la fierté nationale pour transformer le Rwanda. Un de ses adversaires, Frank Habineza, du Parti démocratique vert, est élu dans le sud du pays où il s'est engagé à réduire les impôts des pauvres, appuyer les petits commerces et réduire le chômage. La campagne au Rwanda prend fin le 2 août.
République centrafricaine, à l'issue d'une visite de 2 jours à Bangui, le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, envisage de demander des éléments additionnels pour la force onusienne en Centrafrique. Le point avec Solange Niamoulissa.
Après sa rencontre avec le président Faustin Archange Touadéra, Jean-Pierre Lacroix a dit qu'il va informer le Conseil de sécurité de la situation et revenir vers lui. D'après le chef des opérations de maintien de la paix, ces mesures peuvent se traduire par une demande d'éléments additionnels. 9 casques bleus ont été tués depuis mai dans la région de Bangassou, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. M. Lacroix a par ailleurs annoncé que l'ONU est en contact avec la Zambie et la Tanzanie pour remplacer quelques 600 soldats congolais rentrés à Brazzaville suite à des accusations d'abus sexuels. La MINUSCA, mission des Nations Unies en Centrafrique, compte plus de 12 000 soldats et policiers pour aider le pays à sortir de la spirale des violences meurtrières.
Au Niger, la ministre française des armées, Florence Parly, a affirmé hier à Niamey que la force des pays du G5 Sahel trouvera la solution au problème des attaques djihadistes récurrentes dans la région. Et, a-t-elle ajouté, cette force bénéficiera du soutien de l'opération française Barkhane. Madame Parly, qui a rencontré le président Mahamadou Issoufou, a visité le nouveau poste de commandement de la force que sont en train de mettre sur pied le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie dans une des plus grandes casernes de Niamey.
De leur côté, les États-Unis ont exprimé leur soutien aux efforts du G5 Sahel en faveur d'une force conjointe et pour faire face aux menaces de déstabilisation du Mali et d'autres parties de la région en vue d'une paix durable. Le département d'État américain a également condamné les violations récurrentes du cessez-le-feu au Mali, dont sont coupables des groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger.
En Côte d'Ivoire, deux journalistes ont été interpellés et détenus hier à Abidjan pour divulgation de fausses informations selon leur syndicat. Dan Opeli, directeur de publication du journal de l'opposition Le Quotidien, et le confrère Yves Couillot avaient écrit que les comptes du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, étaient gelés. Guillaume Gbato, secrétaire général du syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire, a demandé la mise en liberté immédiate et sans condition des deux journalistes.
Les États-Unis, le Royaume-Uni et deux ONG internationales demandent une enquête sur le meurtre d'un haut responsable de la commission électorale du Kenya. Des détails avec Eric Manirakiza.
C'est dans une déclaration conjointe que les deux pays ont exprimé leur grave préoccupation sur l'assassinat de Chris Msando, chargé de superviser le système électronique d'identification des électeurs et de comptage des voix. Se félicitant de l'engagement de Nairobi à mener l'enquête, les États-Unis et le Royaume-Uni ont promis leur aide. Même son de cloche de Human Rights Watch et Amnesty International, les deux organisations exigent une enquête d'urgence et précisent que ce meurtre devrait amener les autorités à renforcer la sécurité du personnel de la commission électorale. Chris Msando avait disparu le week-end et son corps a été retrouvé samedi par la police. Il a fallu 48 heures pour l'identifier. Monsieur Msando était supposé tester hier le système électronique de vote. Le 8 août, les Kenyans vont choisir leur président dans un scrutin qui risque d'être très serré entre le président sortant Uhuru Kenyatta et son rival Raila Odinga. Les gouverneurs, députés, sénateurs, élus locaux et représentantes des femmes au Parlement seront choisis le même jour.
Au Malawi, les autorités ont émis hier un mandat d'arrêt contre l'ancienne présidente Joyce Banda. Elle est accusée dans un énorme scandale de corruption qui a précipité sa défaite en 2014. Le point avec Morgane Guériec.
D'après James Kadadzera, porte-parole de la police, les preuves rassemblées par les services fiscaux rendent l'ex-présidente suspecte d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent. Pour les besoins de l'enquête, la police a lancé hier un mandat d'arrêt contre Mme Joyce Banda, qui vit ici, aux États-Unis. En 2013, près de 30 millions de dollars ont disparu des caisses de ce pays pauvre d'Afrique australe. Des dizaines de fonctionnaires, d'hommes d'affaires et de dirigeants politiques ont été cités dans ce scandale surnommé le Cashgate. De nombreux pays ont cessé leur soutien au Malawi, dont le budget dépend à 40% de l'aide étrangère. Cette affaire avait contribué à la défaite de la présidente Joyce Banda en 2014 face à son adversaire Peter Mutharika, qui s'est engagé à lutter contre la corruption.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, et selon le Washington Post, le président Donald Trump aurait dicté à son fils Donald Trump Jr. le récit que ce dernier a livré en juillet de sa rencontre avec une avocate russe en 2016 en pleine campagne électorale. Le fils du président avait initialement dit que la rencontre portait sur des questions d'adoption avant de reconnaître qu'elle visait en réalité à obtenir des informations potentiellement compromettantes sur Hillary Clinton. L'un des avocats de M. Trump, Jay Sekulow, a réagi à l'article du Post, estimant, je cite, qu'en plus d'être sans conséquence, ces affirmations sont inexactes et non pertinentes.
D'autre part, le directeur de la communication de la Maison-Blanche, Anthony Scaramucci, a quitté ses fonctions lundi après seulement 10 jours à son poste. Scaramucci a été forcé de partir à la demande de John Kelly, le tout nouveau secrétaire général de la Maison-Blanche, affirme le New York Times. Jean-Roger Bion fait le point.
Monsieur Scaramucci a défrayé la chronique la semaine dernière à cause d'une interview dans laquelle il insultait copieusement plusieurs collaborateurs du président Trump sur un ton d'une rare vulgarité. Il s'en était pris à l'ancien secrétaire général de la Maison-Blanche, Ryan Scribus, en le qualifiant de schizophrène, paranoïaque, mais aussi à Steve Bannon, le très controversé conseiller spécial du président. Selon le New York Times, c'est le remplaçant de Monsieur Scribus, John Kelly, un général des Marines à la retraite et jusqu'alors ministre de la Sécurité intérieure, qui a exigé que M. Scaramucci quitte son poste pour asseoir son autorité. M. Kelly a été nommé pour remettre de l'ordre dans une maison blanche déchirée par les luttes intestines, souvent étalées au grand jour dans la presse à coups de fuite. Donald Trump avait réfuté toute idée de chaos lundi matin dans un tweet.
Les États-Unis ont infligé des sanctions au président du Venezuela, Nicolas Maduro, suite à ce que Washington a appelé l'élection illégitime d'une assemblée constituante. Tous les avoirs de M. Maduro aux États-Unis ont été gelés et toute transaction interdite entre lui et tout citoyen américain. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
Ouverture de la première chambre de commerce chinoise à Abidjan. La Chine, troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, compte environ 40 entreprises dans la capitale économique ivoirienne, impliquées notamment dans l'alimentation en eau potable, l'extension du port d'Abidjan, la construction du stade olympique à Ebimpe, l'agrandissement du réseau électrique et du réseau haut débit à fibre optique. Les échanges entre les deux pays ont progressé de 800% entre 2014 et 2016. En Gambie, des villageois de Gunjur et des organisations écologiques accusent une fabrique chinoise de farine de poisson de polluer leurs côtes. D'après ces organisations, les déchets qu'elles rejettent détruisent la faune et la flore aquatique. La compagnie Golden Lead a rejeté les accusations. Les géants mondiaux du transfert d'argent à l'étranger, Western Union et MoneyGram, ont suspendu leurs activités en Guinée équatoriale, où les autorités ont imposé un plafonnement mensuel des sorties d'argent pour faire face à la récession due à la chute des cours du pétrole. Selon un arrêté gouvernemental, chaque particulier peut envoyer jusqu'à 1 million de francs CFA à l'étranger par mois.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Los Angeles jette l'éponge pour 2024 et organisera les Jeux Olympiques d'été de 2028.
Oui, la ville californienne a déclaré officiellement sa candidature pour organiser les Jeux Olympiques de 2028. Un accord avec le Comité international olympique qui prévoit que le CIO avancera des fonds au comité d'organisation de Los Angeles. Au vu de la période de planification plus longue, le CIO apportera une somme évaluée à 1,8 milliard de dollars. En d'autres termes, c'est Paris qui se retrouve désormais seul en lice pour l'organisation des Jeux Olympiques d'été en 2024.
Coup de tonnerre en Espagne. Après Messi, c'est Cristiano Ronaldo qui est mis en examen pour fraude fiscale.
Ah oui, Idrissa, l'international portugais de 32 ans a été entendu par un tribunal de la banlieue de Madrid hier. Le quadruple Ballon d'Or a cependant assuré dans un communiqué être un contribuable sans reproche. La star du Real Madrid aurait pourtant utilisé entre 2011 et 2014 un montage de société basée à l'étranger pour éviter de payer en Espagne des impôts sur le revenu tiré de ses contrats publicitaires. Il aurait ainsi dissimulé un peu moins de 15 millions d'euros.
Autre star de la Liga sur le devant de la scène, le Brésilien Neymar qui semble se rapprocher du PSG.
Oui, Neymar qui a passé la journée de lundi à Shanghai en Chine où le footballeur brésilien a participé à des événements promotionnels. L'attaquant du FC Barcelone, qui pourrait faire l'objet d'un transfert record à 222 millions d'euros vers la France et le Paris Saint-Germain, devrait réaliser une escale à Doha pour finaliser sa signature au PSG et passer sa visite médicale. Selon le quotidien qatarien El Watan, il devrait même arriver ce mardi au Qatar, juste après cette tournée promotionnelle. À cette occasion, Neymar rencontrera le président du club parisien, Nasser Al-Khelaifi.
Autre transfert.
Nemanja Matic s'est officiellement engagé pour 3 ans avec Manchester United. Le milieu international serbe de 28 ans quitte Chelsea, où il a remporté le titre en Première Ligue la saison passée. Selon la presse anglaise, son transfert serait estimé à 45 millions d'euros. Autre transfert, Tour annonce la signature de Mayo Rondoy. Le milieu sénégalais de 25 ans s'est engagé pour 2 ans. La saison passée, il avait participé activement à la remontée de Strasbourg en Ligue 1.
Michaud ne va plus entraîner les Cranes de l'Ouganda.
Le technicien serbe a résilié son contrat avec les responsables ougandais de football. La cause, salaire impayé depuis plusieurs mois. Arrivé depuis mai 2013 à la tête de la sélection de l'Ouganda, Milutin Michaud a réussi à qualifier le groupe pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, chose qui n'est plus arrivée depuis 39 ans. Il a aussi qualifié le groupe pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.
Coup dur pour l'athlétisme kényan.
Et oui, David Rudisha, double champion du monde et double champion olympique du 800 mètres, a annoncé son forfait pour les mondiaux 2017 d'athlétisme à Londres en raison d'une blessure à un quadriceps. Sacré champion du monde en 2011 en Corée du Sud et en 2015 en Chine, Rudisha avait déjà manqué les mondiaux 2013 à Moscou en raison d'une blessure à un genou qu'il avait également diminué en 2014.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, plusieurs arrestations hier à Goma, capitale du Nord Kivu, suite à la manifestation du mouvement citoyen Lutte pour le changement, organisé à travers le pays. Par ces manifestations, la Lucha tenait à exiger de la Commission électorale nationale indépendante l'organisation des élections avant la fin de l'année, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre de Goma. Notre correspondant Charlie Kasereka.
La manifestation prévue pour ce lundi par le mouvement citoyen Lucha a été étouffée à certains endroits dans la ville. Très tôt le matin, on a constaté un fort dispositif sécuritaire dans presque tous les coins chauds de la ville de Goma. Les groupuscules de manifestants calico à la main ont tout simplement été dispersés par les gaz lacrymogènes de la police congolaise qui précise que la manifestation n'a pas été autorisée par les autorités politiques. Dans les premières heures le matin, une vingtaine de jeunes ont été arrêtés dans les quartiers ouest de la ville avant qu'un autre groupe traverse les quartiers Majengo au nord de Goma pour se diriger vers les bureaux de la CENI au centre-ville. Luc Nkulula est membre de la Lucha.
Vous voyez, c'est la jeunesse de Goma qui est en train de se mobiliser là. Ce que nous demandons à la CENI, c'est de nous faire un calendrier électoral et que nous ayons les élections en 2017. C'est toutes les associations de jeunes de Goma. Et là, c'est la troisième équipe qui veut maintenant entrer à l'offensive sur le terrain. Nous sommes encore très nombreux, donc on ne va pas s'arrêter. On dit à la police qu'on ne va pas se fatiguer.
La détermination, mais surtout l'espoir pour les élections cette année, ils y croient toujours.
Nous y croyons, parce que ce pays appartient à nous tous.
Les élections.
Ce pays n'appartient pas à ces cliques. Nous devons les élections.
Les élections.
Ici, devant les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante, ils brandissent les calicots portant les messages. Antonin Deschamps avale leur interpellation par la police qui les a conduits vers les cachots à la mairie de Goma. Le mouvement citoyen pro-démocratie Lucha, dans son communiqué ce soir, fait savoir qu'environ une cinquantaine de leurs camarades ont été interpellés ici à Goma. D'autres arrestations ont été aussi signalées dans la partie nord de la province du Nord Kivu, précisément à Beni et à Butembo. Signalons que les activités commerciales sont restées paralysées presque toute la journée, avec des marchés et des banques fermées, alors que la circulation des véhicules et les transports en commun étaient normales toute la journée dans la ville de Goma. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Sénégal, la majorité présidentielle devrait remporter les législatives de dimanche dernier. Plus de 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leurs 165 députés, dont 15 représentants de la diaspora. Cette large victoire annoncée du camp présidentiel est-elle une surprise ? Pour analyse, Idriss Fall a joint Moussa Diaw, professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis.
Ce n'est pas une surprise. Hein. La situation politique, notamment les coalitions, se sont fragmentées. Parce qu'au début, au niveau de l'opposition, il y avait une initiative qui consistait à rassembler l'ensemble des partis de l'opposition. Mais par la suite, il n'y a pas eu un consensus. Et cette fragmentation a profité à la majorité. Au moment où il y avait cette union, tout le monde se disait, enfin, ils arrivent à dépasser leurs contradictions internes, des conflits d'intérêts, des conflits de leadership, pour s'inscrire dans une logique collective. Mais ça ne s'est pas fait. Cette dispersion de l'opposition a ouvert donc une brèche considérable à la majorité et qui n'a pas lésiné sur les moyens.
47 listes électorales.
Ces 47 coalitions-là ne représentent pas grand-chose. À la lumière des résultats, on se rend compte que ce n'était pas du tout consistant. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des manœuvres politiques derrière ces listes-là. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un problème de rationalisation des partis politiques. Actuellement, on tourne autour de 285 partis politiques au Sénégal. C'est énorme pour 14 millions d'habitants. Il va falloir rationaliser. Il y a des partis qu'il n'y a qu'un seul leader. La législative est tellement élastique de manière à permettre à n'importe quelle personne de former un parti politique. Alors que ce n'est pas ça l'objectif d'un parti politique.
Abdoulaye Wade, l'ancien président, battu dans son propre bureau de
le vote, mais gagne à tout bas quand même.
Ça veut dire tout simplement, Abdoulaye Wade est un chef charismatique, il a été président de la République, il a son parti, il a des fidèles, il a un fief au Abdoulaye Wade. Tout bas, il a fait partie de ses fiefs. Mais son problème, c'est qu'il n'a pas restructuré son parti politique. C'est lui seul, c'est lui le leader. Il a voulu mettre son fils, ça n'a pas marché. Je crois qu'il doit tirer des leçons par rapport à cette défaite-là.
À 91 ans, ça va quoi, il peut aller à la retraite.
Ah oui, oui, il est temps qu'il pense, mais quand on entend parler, il n'est pas prêt à céder. Physiquement, il ne tient plus. Le meilleur service qu'il rendrait à son parti, de le réorganiser, de le restructurer et de passer la main.
Le maire de Dakar, Khalifa Sall, qui a battu campagne en prison, aujourd'hui revendique la victoire à Dakar.
Il y a une bataille des chiffres là, à Dakar. Et l'opposition ne veut pas céder. La Médina, l'opposition a gagné. Guédiawa, l'opposition a gagné. C'est l'Assemblée où il y avait le ministre de l'économie et des finances a été battu. À Grand Yoff, c'est l'actuel maire emprisonné qui a gagné. Donc l'opposition revendique la victoire de Dakar.
Le professeur Moussa Diaw de l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Les inquiétudes et interrogations que suscitent les rendez-vous électoraux en Afrique. Pourquoi un bon nombre d'Africains n'ont pas ou ont très peu confiance dans les processus électoraux, comme l'indique l'Institut Afrobaromètre? Y a-t-il des différences entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest? Et que faire pour mettre un terme aux irrégularités et fraudes électorales? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Poursuite des travaux de construction de la centrale photovoltaïque du Burkina, lancée en juin 2016 avec ses 33 MW, cette centrale solaire serait la plus importante de l'Afrique subsaharienne. De Ouagadougou, notre correspondant Zoumana Wanogo.
C'est à Zaktouli, dans la banlieue de Ouagadougou, que se situe le site de la centrale photovoltaïque du Burkina. Suivons avec Abdoulkader Traoré, le chef du chantier, la présentation physique des lieux.
La centrale comprend 129 600 modules ou panneaux photovoltaïques. Ces 129 600 modules sont répartis sur 1 800 tables. Ces 1 800 structures sont raccordées à 16 centres de production intégrés ou CPI. Donc ces 16 CPI vont collecter l'énergie photovoltaïque produite par les modules, les transformer en courant alternatif et les élever en tension pour diminuer les pertes lors du transport et va les véhiculer dans un poste qu'on appelle poste solaire, c'est-à-dire toute l'énergie produite par la centrale photovoltaïque sera collectée, conduite dans ce poste solaire. Et à partir de ce poste solaire, on va maintenant faire une injection sur le réseau Sonabel.
Les Burkinabés sont habitués au délestage. Alors, cette centrale va-t-elle mettre fin à leur calvaire? C'est la question que nous avons posée à Boussim Bernard. Il est de la Société nationale d'électricité du Burkina, la Sonabel.
La centrale sera un parc de production. Ce parc-là va produire chaque année 56 MW, ce qui représente 5% de la production actuelle du Burkina Faso. Donc vraiment, ça va soulager un tant soit peu la population du Burkina Faso.
Quelle place occupe cette centrale en Afrique de l'Ouest? Alpha Omar Dissa, le ministre de l'Énergie, explique.
La centrale de Zaktouli reste la plus grosse centrale d'Afrique subsaharienne. C'est une centrale de 33 MW. Nous avons regardé la situation du Burkina. Nous voyons que c'est un pays qui a un ensoleillement important de 5,5 kWh par mètre carré par jour. Nous pensons que nos coûts de production à partir donc du DDO et du HFO sont très élevés. Donc nous nous sommes orientés dans un mix énergétique qui va permettre d'un côté de pouvoir donc augmenter le taux de pénétration du solaire dans le mix énergétique et de l'autre côté de travailler à aller vers des centrales à gaz qui vont nous permettre également de diminuer le coût de production, mais également de travailler avec les pays voisins qui produisent de l'hydroélectricité moins chère, mais également à partir du gaz moins cher.
Zoumana Wanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Dégradation des relations entre Moscou et Washington, les dernières sanctions économiques du Congrès américain ont porté un coup sérieux aux espoirs de réchauffement suscités par l'élection de Donald Trump. La Russie a riposté en imposant une réduction drastique de 750 personnes travaillant dans les missions américaines sur son sol. Cette confrontation peut-elle mener à une nouvelle guerre froide ? Éric Manirakiza, adjoint professeur de sciences politiques à l'Université de Floride, Richard Conley.
C'est difficile à dire en ce moment. Peut-être la course naturelle diplomatique quand il y a des pays qui ont des difficultés. Ce sont deux grandes puissances dans le monde avec beaucoup d'armements nucléaires. Donc je ne crois pas qu'on se retrouve dans une situation pareille pour le moment, mais c'est sérieux.
Qui peut basculer dans la guerre froide carrément?
Oui, s'il y a une escalation, mais vraiment les autres menaces que font face les États-Unis en ce moment, c'est la Corée du Nord, l'Iran et bien sûr dans le Proche-Orient. Mais il y a avoir des ripostes de Moscou dans cette situation parce que les sanctions visent leur industrie pétrolière et quelques individus qui sont très proches de Vladimir Poutine. Donc c'est peut-être pas inattendu leur action pour le moment. Et ce que le Congrès a fait, en fait, c'est de demander au président de gagner l'approbation de la législature s'il veut modifier les sanctions. Et ça, c'est vraiment sans précédent depuis longtemps. Il faut peut-être remonter au défi au président Eisenhower dans les années 50, le Bricker Amendment, par exemple, qui n'a pas été adopté par le Congrès. Mais je crois que le président Trump, il a dû accepter ce projet de loi pour deux raisons. Premièrement, il n'y avait que moins d'une dizaine de votes contre le projet de loi, donc il ne pouvait pas soutenir son pouvoir de veto. Et deuxièmement, il y a cette perception dans le grand public, évidemment dans le Congrès, que Trump était trop proche à Vladimir Poutine.
Ce projet de loi, si le président le signe, c'est-à-dire que ça va briser l'espoir de tout réchauffement des relations entre Moscou et Washington.
Ben oui, bien sûr. Il y a aussi cette perception que les Russes ont interféré dans l'élection de 2016. Les sanctions mises en place maintenant interdisent aux Européens d'avoir des commerces dans le domaine de pétrolier, etc. Et donc la plupart des pays européens ne sont pas très contents de cela. Donc il y a des rebondissements beaucoup plus grands que juste les rapports bilatérales entre les États-Unis et la Russie.
Le professeur Richard Conley de l'Université de Floride.
Salut les amis, ici Roger Montou de RM Show sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au programme de la bonne musique comme d'habitude. Et notre sujet de cette semaine, ah oui, vous attendez ce sujet. On dit que l'amour n'a point d'âge, qu'en pensez-vous? Envoyez-nous vos réactions sur SMS ou WhatsApp au 001 703 350 37 31 ou contactez-moi sur ma page Facebook, c'est Roger Montou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show, appelez-nous aussi au 001 202 619 31 40 RM Show. C'est ce soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idriss Assedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.